Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, notre numéro de Loire Mag, le podcast, pour ce mois de mai, va être sous le signe du Made in Loire. Un sujet que connaît très bien Jean-Michel Raymondon, directeur adjoint au département de la Loire. Il nous en présentera les différents domaines d'activité avec pas mal d'exemples à la clé. Et puis nous entendrons pour illustrer justement ce Made in Loire, Hervé Henry. Pascal Robin est allé le rencontrer. Il est PDG, Hervé Henry, PDG de Sileane, spécialisé dans la robotique industrielle et l'intelligence artificielle. Cette entreprise est un des fleurons de l'industrie ligérienne. Puis nous nous rendrons à la Maison de l'Emploi à Saint-Étienne pour y retrouver Nathalie Rodriguez du CIDFF 42, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, avec elle il sera question des réussites avec les femmes qui ne savent plus parfois vers qui se tourner pour trouver un emploi notamment. Et nous terminerons par un autre visage du Made in Loire avec la société MAC 1, une entreprise qui fabrique des rayons, des écrous et des jantes, tout ça pourquoi ? Pour la fabrication des vélos qui envahissent de plus en plus nos rues et nos routes de la Loire. Et d'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle, ce sera un reportage d'Emmaël.
Loire Mag, le dossier.
Le savez-vous, ce sont 42 entreprises qui ont le label Entreprise du patrimoine vivant dans la Loire. Un chiffre qui évoque par hasard, mais le hasard fait parfois bien les choses, il évoque bien sûr le numéro de notre département. Un chiffre, ce chiffre 42, qui est proportionnellement élevé au regard du rapport à la population que compte la Loire, mais qui atteste d'une vraie vitalité de ce que l'on peut qualifier de Made in Loire. Jean-Michel Raymondon est directeur départemental adjoint en charge notamment des affaires économiques. Pour lui, c'est une analyse tout à fait exacte.
Ces entreprises-là sont représentatives de ces savoir-faire ligériens. On peut parler de sociétés comme Vernet Caron, dans le domaine de l'arme, ou Blaise Frère. Blaise Frère, par exemple, qui est une petite PME, une pépite ligérienne, qui fabrique des lames d'escrime. Donc, on est effectivement dans la tradition de la fabrication des armes blanches d'il y a 3 siècles en arrière. Blaise Frère, effectivement, une petite entreprise qui équipe 90% des équipes nationales d'escrime. Dans le domaine du textile, alors là, on en a plusieurs représentatives. On va avoir des sociétés comme Hugo Tag, des sociétés comme Julien Faure, des sociétés comme Denis et Fils à Montchal.
Néret,
bien entendu. On en retrouve effectivement un certain nombre. Dans le domaine de la gastronomie aussi, hein, donc on a Chocolat Weiss, fleuron de la chocolaterie ligérienne, mais aussi une très vieille entreprise stéphanoise, les pâtes Cornan, puisque cette entreprise a plus d'une centaine d'années. Dans la bijouterie, on peut parler de Tournaire, mais il y en a d'autres. Hein, ou, je dirais de façon plus anecdotique, mais quelque chose qui est une pépite aussi ligérienne, la verrerie de Saint-Ju, qui fabrique ce qu'on appelle du verre cathédral pour tout ce qui est le vitrail, notamment une activité aujourd'hui peu connue de nombreux Stéphanois, mais qui reste quelque chose d'assez particulier, issu d'un savoir-faire, d'une tradition.
Là, on a affaire à des entreprises qui sont héritières de savoir-faire historique, mais aujourd'hui, on a aussi des entreprises qui font donc du coup du Made in Loire, qui ont choisi de rester dans le département et qui sont à la pointe de la technologie.
Oui, alors là, on en a effectivement des quantités. On peut parler de réussite de ces dernières années, comme Sileane, comme Keranova, entreprise effectivement de pointe.
Sileane, spécialisée dans la robotique, qui a un projet de robot de tri des déchets nucléaires, et Keranova, qui va sortir en 2022 une machine robotisée pour traiter la cataracte, par exemple.
Voilà, par exemple, ces entreprises, effectivement, ont pu se développer, ont pu innover, notamment grâce à une forte relation entre les activités des entreprises et le milieu universitaire ou de grandes écoles du bassin stéphanois. Ce lien qui existe depuis très longtemps et qui aujourd'hui permet à toutes ces entreprises innovantes de s'appuyer sur des connaissances, de faire appel à des savoir-faire académiques importants. On doit avoir sur le territoire plus de 1200 chercheurs, enseignants-chercheurs, une quarantaine de laboratoires dans des quantités de domaines. On peut parler de la rhéologie des matériaux, d'où est issue par exemple l'innovation de l'Actips. Voilà, c'est un exemple
sur
frappant
la
sur la caséine du lait. Dans le domaine de l'optique, on parlait de Keranova, mais on peut aussi parler d'Engenieux. Engenieux qui a utilisé ces connaissances-là, mais surtout aussi a permis, je dirais, la création d'un certain nombre de ces laboratoires.
Un cercle vertueux, c'est-à-dire que des laboratoires ont permis que naissent des activités, mais certaines activités plus traditionnelles ont fait que la recherche sur le sujet s'est implantée ici dans la Loire.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, effectivement, ce lien est notamment maintenu par l'écosystème, donc avec, là aussi, un tissu industriel qui est assez soudé par un certain nombre de fédérations, un certain nombre de réseaux qui, aujourd'hui, permettent à ces entreprises d'échanger, de travailler ensemble, permettent à ces entreprises d'accompagner d'autres entreprises. Voilà, c'est aussi un des caractères, en fait, de notre territoire. C'est cette capacité qu'on a à se parler et à travailler ensemble. Donc, il y a à faire ce lien, effectivement, entre le savoir et le savoir-faire.
On peut citer quelques-uns de ces réseaux ?
On peut parler, effectivement, par exemple, de la CPME Loire, qui, aujourd'hui, est très active. On peut parler des réseaux de la filière bois, par exemple. Peu connue, mais la filière bois, c'est quand même une activité importante de notre département Fibois 42. Le pôle agroalimentaire de la Loire, on peut citer tout ce qui est en train de se mettre en place autour de la cité du design, des espaces de coworking qui se déploient. Voilà, je crois qu'on a ce creuset qui doit nous permettre, je dirais, d'être optimiste en tout cas pour l'avenir et puis de se dire que la Loire continuera à être une terre d'innovation.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Créée en 2002 par son fondateur Hervé Henry, Cieléane est une entreprise innovante et performante du bassin stéphanois. Spécialisée dans la robotique industrielle et l'intelligence artificielle, et cela dans de nombreux domaines d'activité, Cieléane est un parfait exemple du Made in Loire. Hervé Henry, PDG de l'entreprise, est au micro de Pascal Robin.
C'est juste l'envie de créer, après avoir été salarié pendant 17 ans au sein de différentes entreprises, et l'envie de continuer mon métier, parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre que de la robotique. Après une période assez longue, effectivement, de salarié dans le groupe Vinci, enfin ce qui s'appelle Vinci aujourd'hui, puis chez Courbon, à Saint-Étienne, qui était une très belle entreprise. J'ai décidé de quitter cette entreprise en 2001 et donc de créer Cieléane. Ça a démarré dans ma cuisine, tout simplement.
Vous avez commencé à combien de personnes ? Seul, éventuellement ?
Oui, j'ai démarré seul. J'ai démarré seul, Cieléane, en 2002. Donc, et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre quelques toutes petites commandes, des études, et puis d'un an, j'ai commencé à embaucher un premier salarié, et puis deux, et puis trois, voilà.
Et aujourd'hui, plus de 100, c'est ça ?
Et aujourd'hui, nous sommes 92.
12, voilà, une petite centaine.
92, une petite centaine, oui.
Pourriez-vous nous donner une définition de l'intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle repose sur des statistiques, sur des probabilités, sur de l'observation, et donc sur de la digestion de données, en fait, pour déduire des comportements, des algorithmes en fonction des données. Alors que, à l'inverse, l'informatique traditionnelle va ressortir des données à partir de comportements qui sont prédéfinis, préécrits. On est sur une notion d'informatique probabiliste, en fait. En ce qui nous concerne, on ne travaille que dans l'industrie. Donc, la robotique est utilisée aujourd'hui dans différents domaines, dans l'industrie, bien sûr, depuis toujours. Enfin, depuis bientôt 50 ans maintenant, dans des domaines beaucoup plus grand public, comme la robotique de service ou la robotique professionnelle en chirurgie ou autre. En ce qui nous concerne, Cieléane, on n'intervient vraiment que dans l'industrie. Les applications dans l'industrie sont nombreuses. Il s'agit de faire de l'assemblage, faire de la peinture, faire de la manutention, faire tout un tas de tâches, effectivement, qui peuvent être pénibles, dangereuses ou simplement naturelles dans tous les process industriels. On essaie d'intervenir là où les machines aveugles ne marchent pas. Donc, on va instrumenter les robots, les bras robots, avec différents capteurs, et particulièrement des capteurs de vision, donc des caméras, qui vont permettre de capturer des images en temps réel. On va développer des programmes qui vont permettre d'analyser ces images, alors avec de l'informatique traditionnelle ou avec effectivement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si le robot a juste à manipuler des boulons, par exemple, qui arrivent en vrac, mais qui arrivent sur un convoyeur, on sait qu'on cherche des boulons, on sait ce que c'est qu'un boulon, on connaît le modèle numérique du boulon, et donc on va pouvoir comparer un boulon, qui est une image étalon que l'on peut prendre et que l'on peut mettre en mémoire. On va pouvoir comparer ce boulon à l'image de référence. L'intelligence artificielle va nous permettre d'augmenter ce type de choses, par exemple pour traiter des déchets. le modèle numérique du déchet, ça n'existe pas. Un déchet, il y a une infinité de déchets possibles, de formes possibles, de matières possibles. L'IA va nous apporter sur ces technologies la capacité d'aller travailler non plus seulement dans l'aléatoire ou sur des choses qui peuvent être connues, mais vraiment travailler dans l'inconnu. Et donc découvrir dans ces images, de façon instantanée et temps réel, des objets que l'on n'a jamais vus sous la caméra de la machine, des objets complètement différents les uns des autres. Ce sont toutes ces technologies que l'on utilise pour instrumenter un bras robot, donc des caméras, l'intelligence artificielle, l'informatique tout à fait traditionnelle aussi, pour pouvoir effectivement réagir à une situation industrielle connue, aléatoire ou inconnue en temps réel. Donc trier des déchets par exemple, que ce soit dans le civil ou dans le nucléaire, traiter des opérations de manipulation de produits qui peuvent être souples, fragiles, instables, des produits dont la géométrie peut varier d'un produit à un autre, des poches souples par exemple, des produits alimentaires. Voilà globalement l'environnement dans lequel Silihan se développe.
Dans quel secteur de l'industrie êtes-vous présent et quels sont vos principaux clients ?
Alors aujourd'hui, nous sommes présents dans 5 ou 6 grands secteurs. Le secteur de l'agroalimentaire et de la pharmacie. Ensuite, l'industrie cosmétique aussi, le luxe, le flacon de parfum, l'industrie cosmétique, tout ce qui tourne autour de ce type de produit est un secteur dans lequel nous sommes très présents. De plus en plus, et c'est une volonté, nous cherchons à développer l'entreprise aussi dans le secteur de ce qu'on appelle les green tech, mais globalement, c'est le monde du tri de déchets et du démantèlement, donc particulièrement dans l'industrie nucléaire où... il s'agit de déconstruire des centrales nucléaires et de trier tous les déchets effectivement qui sont dangereux, qui posent un certain nombre de problèmes. Et là où les robots, effectivement, l'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle est très vertueuse. Ce sont des marchés où on travaille à horizon 5, 10, 15 ans, voire 30 ans. On travaille aussi beaucoup dans l'industrie des microtechniques, l'horlogerie, la connectique, des industries très fines, notamment en Suisse, où nos technologies sont particulièrement appréciées également. Et il y a bien d'autres industries, la plasturgie, l'automobile, dans lesquelles nous sommes aussi présents. Encore que l'automobile, nous y sommes de moins en moins, mais ça, c'est une question de stratégie.
En 2021, vous ferez donc 15 millions de chiffres d'affaires. Comment voyez-vous l'avenir de Silihan dans les prochaines années ?
Notre objectif, continuer notre développement. Il est surtout de continuer à exploiter le potentiel de l'entreprise. Donc on est sur un marché qui est assez dynamique malgré tout.
Et porteur.
Et porteur, bien sûr, particulièrement en France où on a beaucoup de retard dans le domaine de l'industrie et de la robotisation et de l'automatisation en général. Avec une vision à 30-35 millions d'euros entre 2025 et 2027. Voilà, donc globalement, c'est notre plan de route est celui-ci. À la fois en croissance interne, mais aussi en croissance externe. On est en train de mailler le territoire français et on espère aussi s'implanter en Suisse et en Allemagne dans les prochaines années. C'est l'objectif de satisfaire nos clients et puis de le faire avec aussi des salariés qui s'y retrouvent.
Pourquoi avez-vous installé votre entreprise à Saint-Étienne et quels sont selon vous les atouts du bassin stéphanois ?
Il y a une ambiance qui me va parfaitement bien, à la fois un environnement académique qui est intéressant, un environnement, une métropole qui soutient ses entreprises, et puis surtout des gens dans nos salariés, qu'ils soient de la Loire ou de la Haute-Loire, aussi du Rhône, mais des gens assez stables malgré tout, et donc qui ont une certaine culture de la fidélité, ça c'est assez fondamental pour moi, voilà, et de la loyauté, de la fidélité. Donc on est bien dans ce bassin, voilà.
Sachez encore que Silihan exporte 35% de son chiffre d'affaires, c'était en tout cas le chiffre en 2019, et cela se fait en Europe, évidemment, surtout, et en particulier en Suisse et en Allemagne, voire au Japon et aux États-Unis. Pour Hervé Henry, l'apprentissage fait partie des valeurs de l'entreprise, ainsi que la formation continue, le tout lié au développement de l'entreprise.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Depuis plus de 40 ans, les CIDFF, Centres d'information sur les droits des femmes et des familles, ont pour objectif de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils accueillent, informent et accompagnent tous les publics et particulièrement les femmes qui souhaitent connaître et utiliser leurs droits dans tous les domaines, droits, emploi, formation, famille. Nathalie Rodriguez est conseillère emploi au CIDFF de la Loire et elle nous parle de son expérience auprès de ces femmes.
CIDFF, c'est le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Initialement, ça a été créé avec un seul F, donc ça intervient sur le droit des femmes, et progressivement et assez rapidement, le deuxième F s'est ajouté. La mission principale du Centre d'information des droits des femmes et des familles, c'est de proposer un accueil et une information juridique sur toutes les questions de droit, droit du travail, droit de la famille, droit international. Et donc dans ce sens, le deuxième F en tant que famille a tout son sens puisqu'on accueille aussi bien hommes que femmes. Néanmoins, c'est une association nationale à vocation féministe quand même, depuis sa création.
On a entendu, je vous en remercie, l'évocation des différents domaines dans lesquels vous intervenez auprès des femmes et des familles. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous êtes particulièrement sollicité?
On est sollicité quand même sur 6 volets qui sont les plus importants, qui sont l'accès aux droits, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'emploi, la formation, la création d'entreprise. Donc là, c'est justement mon cadre d'emploi. Je suis conseillère emploi, donc j'accompagne sur toutes les questions d'élaboration de projets et de l'autonomie vers l'emploi, par l'emploi des femmes. On intervient sur la vie de famille et la parentalité, donc notamment sur les questions de soutien à la parentalité. On a des interventions d'éducation et de citoyenneté, donc là, notamment auprès des collèges et des lycées. Et certains CIDFF, mais pas le nôtre, interviennent aussi dans le champ de la santé. Nous proposons également des formations auprès des professionnels sur toutes les questions d'égalité hommes-femmes en milieu professionnel.
Est-ce qu'il y a possibilité d'évaluer, par exemple pour une année, le nombre de personnes qui vous sollicitent?
Alors chaque année, ce sont plus de 1800 rendez-vous d'informations juridiques réalisés dans 17 lieux de permanence dans la Loire et plus de 3000 personnes sensibilisées et ou formées à l'égalité dans le cadre d'interventions collectives justement.
J'imagine que vous-même, en tant que formatrice, on a entendu que vous étiez surtout dans le domaine de l'accès à l'emploi, voire peut-être le montage de sa propre entreprise. Qu'est-ce que vous disent les personnes qui viennent vous voir, et peut-être en particulier les femmes?
C'est assez difficile de répondre à cette question par rapport à ce qu'elles me disent au début d'un accompagnement, au milieu d'un accompagnement ou à la sortie d'un accompagnement. Donc c'est très différent. Au début, elles viennent avec une demande, avec des problématiques, avec des difficultés qui sont les leurs et qui sont souvent des difficultés liées à un certain statut féminin. Elles ont majoritairement des parcours migratoires, donc voilà, des difficultés d'insertion en tout cas. Donc il y a toute une réflexion, une élaboration de projet qui se met en place. Et quand ça aboutit, en tout cas, le seul mot qu'elle puisse dire, c'est merci.
Et c'est un mot très fort. Je vois votre sourire derrière votre masque, Nathalie. Ces personnes, elles vous trouvent comment ?
Les personnes que j'accompagne, moi, je suis sur un dispositif particulier. On est financé par la région. C'est un dispositif qui s'appelle dispositif Ariane. Donc tous les CIDFF de la région Auvergne-Rhône-Alpes proposent cet accompagnement-là uniquement aux femmes. Alors les femmes que nous, on reçoit, sont souvent des femmes qui ont un parcours assez difficile, qui passe de structure en structure, de dispositif en dispositif. Donc comme je vous disais, moi-même, je suis sur un dispositif que tous les partenaires ne connaissent pas forcément. Donc voilà, dans le champ de l'insertion, il y a énormément de dispositifs. Et les femmes qui viennent, que j'accompagne, soit elles sont directement positionnées par des partenaires de l'emploi, soit elles viennent directement d'elles-mêmes à l'accueil où elles peuvent prendre directement rendez-vous avec moi par l'intermédiaire du bouche à oreille ou bien d'amis ou bien d'un ancien témoignage. Enfin voilà, les arrivées et les demandes sont vraiment variées.
Dans le cadre de votre mission, qu'est-ce que vous ressentez comme le plus important de ce qu'elles attendent en matière d'accompagnement ?
De l'écoute, du soutien, de la compréhension. Comme je disais, ces personnes-là ont parfois connu des accompagnements multiples sur des dispositifs différents. Elles avancent plus ou moins rapidement, en tout cas à leur rythme, et peut-être pas toujours au rythme qu'elles le souhaitent aussi, en fonction de leur autonomie aussi. Bien sûr, c'est plein d'espoir, et quand elles viennent nous voir pour la première fois et qu'elles trouvent une solution, alors que par ailleurs elles ont été accompagnées sur différents dispositifs, tout le monde est content, et elles, les premières.
Est-ce qu'il y a une actualité ?
Je parlerai de mon actualité en termes d'accompagnement emploi. Cette année, le CIDFF de la Loire a pu mettre en place des accompagnements vers l'emploi en partenariat avec l'URAPEDA de femmes sourdes. L'URAPEDA qui est un organisme qui fait l'interface entre l'entreprise et les personnes sourdes, porteuses d'un handicap, donc sourdes ou malentendantes. Et là, j'accompagne un groupe de 3 femmes sourdes, totalement sourdes, avec un parcours migratoire dans leur démarche d'insertion en milieu ordinaire. Il y en a une qui est en train de partir sur un projet de création d'entreprise. Il y en a une autre qui part sur de la formation et une autre qui part sur de l'emploi en agroalimentaire. C'est une action collective que le CIDFF a pu maintenir et mener jusqu'à son terme.
Une petite victoire.
Oui, surtout en ce moment.
Loire Mag, visage de la Loire.
Et encore du Made in Loire pour ce dernier sujet de notre émission Loire Mag, le podcast. La Loire en fleuron de l'industrie du cycle, est-ce que vous pensez que c'est du passé? Si c'est le cas, vous vous trompez, puisque certaines entreprises ont su traverser les crises et sont maintenant en première ligne de cette industrie qui a le vent en poupe, ou plutôt dans les roues. C'est le cas de Mac 1, une entreprise qui fabrique des rayons, des écrous et des jantes. C'est un reportage d'Emmaël.
C'est au cœur de la plaine du Forêt, à Marclos, au bord de la départementale qui relie Moron-les-Bains à Feurs, que se trouve Mac 1. Présentation par Guillaume Bout, le directeur général de l'entreprise.
Aujourd'hui, nous sommes sur le site de production de Marclos, donc qui est notre site principal. Nous avons aussi un site en Roumanie, mais le site principal est le site de Marclos. Nous produisons aujourd'hui 5 millions de jantes à l'année et puis 300 millions de rayons. Sur un marché qui est en forte croissance. Nous avons donc notre base technique ici à Marclos et dans certains cas, nous suivons nos clients monteurs de cycles autour de leur production puisque dans le business du cycle, on a les monteurs de vélos et en tête de montage de vélos, on a souvent le montage de roues et la fabrication de jantes, puisque ce sont des produits qui sont très chers à transporter, donc on les apporte proches du site de montage de vélos.
Mac 1 est une entreprise qui a su traverser les décennies. Elle a déjà une longue histoire, cette entreprise.
Oui, elle a une longue histoire sur le bassin stéphanois, qui à l'époque était un bassin cycle. Et Mac 1 donc, a su traverser les différentes crises. Et aujourd'hui, c'est une société qui se porte bien, qui continue à croître. Et la volonté est vraiment de consolider les positions que l'on a ici en France pour alimenter le marché européen. Aujourd'hui, on représente à peu près 20% du marché européen, du marché du cycle européen.
Votre installation, notamment en Roumanie, n'a pas empêché le site ici de Marclos de se développer, bien au contraire.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on exporte notre savoir-faire, mais on n'a jamais été aussi nombreux à Marclos que depuis qu'on a le site en Roumanie. Donc, c'était de la croissance, mais notre base phare est ici à Marclos. Et encore une fois, on a fait une croissance de plus de 50% sur Marclos, tout en s'implantant en Roumanie.
Vu de l'extérieur, les roues de vélo, les jantes, ce genre de choses semblent assez basiques, mais elles ne le sont pas tant que ça, déjà. Et puis, comment faites-vous pour vous imposer? Vous avez dit que vous étiez quand même une part importante du marché européen. Qu'est-ce qui fait la différence avec vos jantes et vos rayons?
Alors, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est notre capacité à avoir un service client dans des délais très courts. Effectivement, là où aujourd'hui, dans le monde du cycle, les délais sur les composants deviennent très très longs, sur certaines marques, on est à plus de 550 jours de délai. Là où nous, on arrive à conserver des délais de livraison sur 6 semaines, voire moins pour du dépannage. Donc ça reste une de nos forces. Et on a également énormément investi en ingénierie et en R&D, où nous avons investi sur du personnel et également sur des outils de simulation, de conception. Et aujourd'hui, on passe effectivement sur une phase où on a une expertise sur la jante, mais on va aussi vers une expertise autour de la roue pour conseiller nos clients sur le montage complet de la roue. On peut amener du service autour du produit et de la connaissance autour du produit.
Combien y a-t-il de salariés dans votre entreprise ?
Alors nous sommes aujourd'hui sur Marclos 150 personnes avec une grosse base en production et puisqu'on a parlé de développement en produit, 5 personnes en R&D.
Petit tour dans l'usine pour découvrir la fabrication des rayons avec François Joly, le directeur commercial et marketing.
Dans la pièce que vous voyez, qui n'est pas si grande que ça, finalement on fabrique près de 300 millions de rayons par an. Et donc ça fait environ 20% des vélos en première monde de toute l'Europe. et quand je dis toute l'Europe, ça va de la Russie au Portugal et de la Finlande à l'Afrique du Nord même, est faite dans cette pièce-là, en fait. Hein. Ici, c'est une machine qui fabrique aujourd'hui des rayons galva en acier. Les 5-6 process du rayon sont faits dans la machine, c'est-à-dire qu'on a le fil acier qui est derrière en bobine. La bobine est coupée à la bonne longueur à l'entrée. On vient faire la tête et le coude, le pas de vis, le filetage, et le rayon sort terminé ici. Hop. Vous voyez, j'ai mon rayon qui est totalement fini, qui est encore chaud d'ailleurs, comme la baguette. Hein.
Il y a combien de rayons qui sont produits par jour environ ?
Bah écoutez, 300 millions par an sur 215-220 jours de prod, donc ça fait plus d'un million par jour. La capacité est entre 1,5 million et 2 millions. Ça varie en fonction des rayons, c'est-à-dire que si on fait plus d'inox ou plus de rayons qu'on appelle rétrin, forcément le volume global peut baisser.
Et vous m'avez dit, la production est presque continue ici ?
Ah, ici, ça tourne en 3-8 l'atelier, hein, donc c'est 24 heures par jour. Donc on a deux équipes de jour, de 5h à 13h et de 13h à 21h. Et on a une équipe de nuit qui a un peu moins de collaborateurs la nuit, mais néanmoins, les machines continuent à tourner toute la nuit.
Mac 1 est partenaire de la French Lab, le label français créé pour fédérer les industriels français dans le monde.
Loire Mag, évadez-vous ici.
Et pour terminer cette édition de mai de Loire Mag le podcast, eh bien, deux petites propositions de sortie. Vivez le printemps avec la fête des fleurs et des produits du terroir à Riorges. C'est organisé conjointement par la ville et par le comité des fêtes. C'est une sortie familiale par excellence. Vous pourrez vous laisser enchanter par des spectacles, fanfares, ateliers, jeux. Alors je dis ça évidemment tout au conditionnel puisque c'est les 15 et 16 mai prochains que c'est prévu. On espère juste que ça pourra se dérouler. Évidemment, les restaurants seront encore fermés. Et puis, à Saint-Bonnet-le-Coureau, aussi un peu encore avec point d'interrogation, eh bien, devrait se dérouler le 16 mai prochain la fête du pain. Le boulanger cuit son pain. Le moulin des maçons, lui, approvisionne en farine. Là aussi, normalement, ce moulin est fermé jusqu'au 1er janvier, en tout cas pour la visite. Est-ce que la fête pourra quand même avoir lieu ? Eh bien, il faudra vous renseigner avant d'y partir. On le souhaite, bien entendu, en tout cas au mois prochain, au mois de juin, pour un nouveau numéro de Loire Mag le podcast. Merci à Clément Boussignor pour la réalisation technique.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.